Bonjour à tous et à toutes, merci de nous avoir rejoints pour cette Web TV Bipolar en direct de la FNAC Bellecour à l'Auditorium et en direct évidemment de Quai du Polar puisqu'on fête quand même la 20e édition. On a tout un programme à vous proposer tout ce week-end et j'ai le plaisir de recevoir avec moi Yann Manouk. Yann Manouk, bonjour.
Bonjour.
Alors on vous connaît pour vos nombreux polars, mais là cette fois on va parler d'un polar qui nous ramène en Islande, terre de prédilection. Je vais essayer de le dire sans trop me planter. Kumavisur.
Ouais, c'est à peu près ça. Ouais.
C'est à peu près ça.
Ça marche.
Alors un polar en Islande, je l'ai dit, il va falloir que vous nous parliez un petit peu de ce pays, avec plusieurs lignes de narration, avec notamment un chalutier poursuivi dans la tempête avec le corps d'une adolescente malheureusement à son bord. Mais on a aussi une base américaine qui revient à cause du dégel qui est donc redécouverte. Et puis un héros, Cornelius Jacobson, qui revient lui aussi. C'est sur la couverture, c'est la dernière enquête. Mais pour commencer, comment est-ce que est née l'idée de cette nouvelle intrigue ?
Cette nouvelle intrigue, elle est venue parce que j'avais fait deux premiers volumes chez un éditeur précédent, chez Albin Michel. Et après, chez Albin, je suis passé à des bouquins qui sont plus de la blanche que de la noire, notamment avec les deux livres sur l'Arménie, et puis ensuite sur une légende mongole qui s'appelle Aïssoun. Et il y avait plus cette volonté chez Albin de clore la trilogie islandaise, parce qu'en revenir au polar après trois livres qui n'étaient pas du polar, c'est un peu compliqué, enfin pour eux. Et donc, j'ai trouvé l'occasion chez Flammarion d'avoir la possibilité de terminer cette trilogie. Ça me tenait à cœur. J'aime bien les trilogies. Et quand je conçois des séries, je les conçois dès le départ comme des trilogies. Donc, ça veut dire que j'ai dans la tête, j'ai pas la fin parce que je construis pas mes bouquins avec des plans. Mais j'ai dans la tête une certaine idée de la fin. Mmh. Et j'étais resté dessus. Je suis resté sur cette fin-là avec les deux bouquins de Emma et Asga. Et donc j'avais la volonté de terminer la trilogie pour donner une fin à Cornelius, un peu dans le genre de la fin que j'ai donnée à Yarul Elger dans la trilogie mongole.
Comment vous avez vécu justement avec Cornelius ? Ce sont les personnages qui vous habitent comme ça sur plusieurs années. Vous aviez dès le départ l'idée exactement de son évolution ?
Non, j'écris d'une façon un peu particulière. J'écris sans aucun plan, comme je l'ai dit. Et donc je ne sais pas qui va exister au moins dans le premier bouquin. Ouais. J'ai une vague idée du personnage dont je veux m'emparer. On remarque d'ailleurs des similitudes. Hein. Ce sont toujours des flics qui ont passé déjà un bon bout de temps dans le métier, qui ont été un peu bousculés par la vie, qui sont un peu limites, qui n'hésitent pas à passer la ligne jaune, qui sont pas toujours très respectueux des règles. Et souvent, l'excuse qu'ils ont, c'est qu'ils ont une approche culturelle de leur pays qui leur autorise ces petites entorses au règlement. Dans Yarul Elger, c'est le côté chamanique de Yarul Elger qui lui faisait passer la nature avant les hommes. Et donc, quand les hommes déconnaient un peu trop, il se permettait de les cogner à gauche, à droite, parce que pour lui, l'essentiel, c'est pas l'homme, c'est la nature. Et l'homme ne faisant que partie de la nature, n'étant pas quelque chose d'exceptionnel. Chez Cornelius, c'est un peu différent, parce que l'Islande n'est pas un pays nomade, mais on retrouve chez les Islandais ce même rapport avec la nature. C'est une île qui ressemble, comme je le dis dans le bouquin, soit au début du monde, soit à la fin du monde, selon l'endroit où on se met. Et Cornelius a un peu le même sens de la vie, c'est-à-dire que sa vie et la vie des hommes sur l'île, bien entendu, importent, mais elles n'importeront jamais assez, autant que la survie du monde. Et donc, il se permet, lui aussi, d'être un peu borderline. Je pense, d'ailleurs, que tous mes personnages, parce qu'on peut les retrouver aussi dans certains polars américains que j'ai édités chez Hugo, sous le nom de Roy Braverman, je dois être un peu marqué par ça. C'est probablement, quand on arrive à mon âge, on se dit « Merde, qu'est-ce que j'aurais bien aimé être dans ma vie ?» Donc, je me dis... distribuer quelques baffes de gauche à droite. Donc peut-être que je me sers de mes personnages pour faire ça. Quoi.
Est-ce que ça veut dire que l'Islande est un personnage ou que lui est la métaphore de l'Islande ?
Alors, l'Islande est un personnage parce que je suis persuadé, et ça, on le ressent aussi très fort dans les polars américains que j'ai écrits, c'est que moi, je suis persuadé que l'environnement conditionne le comportement des hommes. On prend la même personne, on la met dans la Beauce, on la met dans le Mato Grosso brésilien ou en Alaska ou en Islande ou en Mongolie, la même personne, avec le même passé, au bout d'un an, il serait une personne différente. L'environnement conditionne à tous les niveaux. Et notamment un niveau essentiel qui est le niveau de la peur. La peur, c'est ce qu'on n'arrive pas à expliquer. Et de se frotter à des environnements qui sont différents, qui peuvent paraître dangereux, ça apprend à l'homme de respecter les limites que lui fixe l'environnement et en même temps de maîtriser sa peur. Moi, quand j'ai mis les pieds pour la première fois dans le Mato Grosso brésilien, j'avais jamais touché un asticot de ma vie. Bon. Au bout de quelques mois, on allait chasser les serpents pour les besoins de faire des images ou de faire des films. On choisissait d'abord l'environnement et on se disait, tiens, on filmerait bien quoi ici ? Ben, tiens, un bois, tiens. On allait chercher le bois et on le ramenait. Ou alors on passe à côté de serpents qui étaient dangereux sans paniquer. Une fois qu'on sait, par exemple, qu'un serpent il a besoin d'un tiers de la longueur de son corps pour se prendre appui, pour se lancer, s'il fait 1m50, on sait qu'il ne peut pas vous mordre au-delà d'un rayon d'un mètre. Et donc on peut passer à 2 mètres du serpent sans s'en inquiéter. Avec cette deuxième notion qui, là, est très propre au peuple chamanique et d'une certaine façon au peuple islandais, c'est que s'ils ne répandent plus un danger, il n'y a pas besoin de le tuer. Même si c'est un serpent dangereux, on est passé, il est passé, chacun va de son côté. Donc il y a ce côté, ce respect. Et en dehors du côté Indiana Jones que peut avoir le Mato Grosso ou le côté Dersu Uzala que peut avoir la Mongolie, l'Islande a aussi ce côté-là. C'est-à-dire que quand vous voyez, par exemple, comment sont protégés les lieux les plus dangereux, il y a Dettifoss, qui est la plus grande, la plus violente et la plus impressionnante chute d'eau en Europe. Moi, je l'ai connu en 73. Il n'y avait aucune protection. J'y suis retourné la dernière fois, c'est en 2018, je crois. Ils ont juste mis des petits piquets qui font 30 cm de haut avec une corde. Leur principe, c'est voilà, ce que vous allez voir est dangereux, démerdez-vous. C'est à vous de prendre vos responsabilités. Ce n'est pas à nous de construire des murs de béton, des barrières, des balustrades, etc. C'est dangereux. Et donc, il y a ce côté de ce rapport à la dangerosité. Qui est un peu un fil rouge entre la Mongolie, les États-Unis et l'Islande.
Mais si les lieux habitent les personnages, ça veut dire qu'ils habitent aussi les histoires. C'est pas le même polar en Islande qu'au Mato Grosso ou aux États-Unis ?
Non. Il y a deux raisons. D'abord, les environnements sont différents. Et après, il y a ce que moi j'ai envie d'écrire. C'est-à-dire que, encore une fois, je n'ai aucun plan, mais je me donne une ligne directrice qui peut paraître ridicule parce qu'elle est qualifiée en deux mots. Quand j'écris Hirulgur, je veux faire un polar mongol. Ça peut paraître idiot, parce que c'est évidemment un polar mongol. Mais ça veut dire qu'à chaque page, je me dis, est-ce que je suis bien dans le polar, est-ce que je suis bien dans la Mongolie ? Quand j'écris Mato Grosso, je veux faire un huis clos tropical. Donc, à chaque fois, est-ce que je suis bien dans le huis clos, est-ce que je suis bien dans le tropique ? Et donc, avec cette ligne de conduite, je peux construire toutes les histoires, et naturellement, les histoires sont différentes. Avec l'Islande, c'était quelque chose de particulier, parce que c'était plus personnel. C'était, je pouvais qualifier ça de retrouvailles, des retrouvailles islandaises. Parce que j'avais beaucoup aimé l'Islande. Je l'ai connue dans des circonstances particulières, puisque j'ai participé à la création d'un groupe de volontaires pour lutter contre l'éruption d'un volcan dans une petite île au sud. Donc on est resté vraiment sur le volcan pendant 4 mois. Et j'avais la volonté de retrouver ce pays-là. Donc il y avait pour moi des notions de retrouvailles. Et en même temps, je voulais que ça soit à chaque fois islandais. Donc que dans chaque page, il y ait un petit détail qui connecte le lecteur avec ce que je sais ou ce que j'aime de l'Islande.
Alors après, il y a les histoires, j'ai commencé à les esquisser, plusieurs lignes d'intrigue. Il y a notamment des cadavres incrustés dans la glace qui, avec un effondrement, reviennent, une base militaire avec le dégel qui réapparaît. Comment vous les avez conçus ? Comment est-ce que vous tissez vos polars ? Parce que si vous ne faites pas de plan, ce que vous nous dites, j'imagine que vous avez quand même une idée. Ou est-ce que vous partez sur les 3 lignes et puis à la fin, vous trouvez un truc pour les rassembler ?
Il n'y a pas de ligne au départ. Ce dont j'ai besoin pour commencer un polar, c'est une scène d'ouverture. Et la scène d'ouverture, j'en ai une trentaine en tête depuis 50 ans, que je trimballe avec moi, et je vais piocher dedans. Pour Hirulgur, la petite pédale qui sort de la steppe, j'avais imaginé cette petite pédale de tricycle, donc on suppose que c'est une victime innocente en dessous, j'avais imaginé sortant de différents milieux dramatiques. sortant de la glace d'une banquise, sortant du béton d'un parking, sortant du sable d'un désert, etc. Et donc, quand je commence Yellow Ledger, je me dis par quoi je pourrais commencer, mais pas en pensant à l'histoire de Yellow Ledger, en pensant à cette scène-là. De la même façon que dans un roman, dans un des polars américains, sous le pseudo de Roy Breverman, j'étais allé aux États-Unis avec mes petits-enfants. À Palm Springs, il y a un parc aquatique qui est en plein cœur du désert. Il doit faire 40-45 degrés. Et on voit toutes ces espèces de manèges à eau qui éclaboussent dans tous les sens. Et je m'étais dit à ce moment-là, en surveillant les mômes, parce qu'ils n'étaient pas très âgés, et si ça se déglingue, si ça se dérègle, si ça se déglingue, si au lieu d'avoir une petite pression de 4 kilos qui sort comme ça pour amuser les enfants, si d'un seul coup c'est 20 kilos, 30 kilos, 40 kilos de pression et que ça envoie le gamin... Donc j'avais cette idée-là en tête d'un parc aquatique qui se déglingue. Et quand je commence ce roman, je crois, ça va être gros, je pense, j'imagine une bagarre entre deux personnages dans les sous-sols du parc aquatique, qui est le bureau où on règle tous les manèges en haut. Naturellement, chaque fois qu'un personnage tombe sur une des manettes, ça déglingue un truc au-dessus. Et pour l'Islande, pour celui-ci, j'ai toujours été fasciné par les glaciers. J'ai fait des pieds et des mains et des milliers de kilomètres pour aller voir celui du Perito Moreno en Argentine, qui est somptueux. Mais chaque fois que je vois un glacier, je me dis... Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un est pris dedans? Et surtout, quand on raconte ces histoires de corps qui reviennent de la préhistoire pratiquement et qui sont encore intacts, et pourquoi on les retrouve à cet endroit-là et si facilement? Et quand on sait que le glacier peut les remonter, peut les enterrer, peut les envoyer sur le côté, etc. J'avais cette idée dans la tête depuis longtemps de commencer un jour un roman avec des corps qu'on découvre dans de la glace millénaire. Or, les corps, de toute évidence, n'ont pas été pris dans cette glace il y a des milliers d'années, puisqu'ils sont habillés avec des vêtements qui remontent à 100 ans maximum. Et après, je me suis dit, et si en plus ces trois corps n'étaient pas pris dans la glace à la même période? Donc, je pars d'une idée comme ça, et je la pose sur le papier d'abord. Et ensuite, je construis le deuxième chapitre de façon opposée au premier. Parce que je ne peux pas aller plus loin avec le premier, puisque je ne sais pas où je vais. Et donc, c'est comme ça que je devais encore moins savoir où j'allais avec Rima Visour, parce que je me suis servi de deux autres scènes avant de revenir à la première pour commencer à tricoter mon histoire. Donc je me suis servi d'un vrai fait divers, qui est cette recherche de cette gamine. Et les choses que j'ai décrites sont pratiquement celles qui sont arrivées, c'est-à-dire qu'une petite gamine qui sort le soir, on peut suivre sur la caméra vidéo, puis une voiture l'embarque et on ne la voit plus. Il faut dire qu'en Islande, il y a un ou deux crimes par an. Et en général, ce sont des crimes domestiques, des violences familiales. C'est rare, les crimes crapuleux sont rares. Donc quand il y en a un qui arrive, l'Islande est saisie. C'est-à-dire, tous les journaux en parlent, tout le monde ne parle que de ça. C'est un petit pays, quelques centaines de milliers d'habitants, 350 je crois. Et donc, quand j'étais en Islande, il y avait déjà eu un fait divers comme ça en 73. Après, dans les années où j'y suis retourné, il y a eu ce drame avec la jeune gamine. Donc je me sers de ce deuxième fait divers parce que je ne sais pas où aller avec le premier. Et donc je construis le deuxième chapitre et finalement je ne sais toujours pas où je vais. Et donc je prends une troisième histoire qui est cette histoire de pilote américain qui s'écrase sur le glacier et qui est l'ouverture d'une partie du roman qui se repose sur le fait que cette base secrète américaine est révélée plus tôt que prévu par le réchauffement climatique. Et apparemment, il m'a fallu ces trois scènes sans aucune connexion pour l'instant pour pouvoir imaginer un maillage qui va petit à petit les rassembler tous les trois.
Wow, c'est assez impressionnant quand même, hein, parce que c'est un puzzle. Vous êtes un jardinier, en fait. Vous lancez les idées, oui, vous regardez comment elles poussent. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des pistes que vous abandonnez?
Alors, j'abandonne pas de grandes pistes. Ouais. C'est trois faits divers ces trois faits que j'ai pris. Je vais essayer de les garder jusqu'à la fin. Ce que je fais dans les polars, et je regrette que... Enfin, je regrette, je n'ai pas regretté, mais je trouve que certains auteurs le font de façon trop professionnelle et trop systématique. C'est que beaucoup d'auteurs de polars ouvrent 10 portes et s'applique à refermer les 10 portes avant d'arriver à la résolution de l'intrigue. En fait, dans une vraie intrigue, ça ne se passe pas comme ça. Dans une vraie intrigue, les flics ou les gendarmes ouvrent 10 portes, Mais si à la quatrième porte, ils tombent sur le vrai assassin, ils n'ont pas besoin d'aller refermer les portes 6, 7, 8, 9, 10. Donc, dans le déroulé de l'enquête, je vais probablement soulever un certain nombre de points sur lesquels je vais parvenir. Parce que le fait que l'enquête est résolue n'offre aucune nécessité d'aller parler de ces points-là. Mmh. Mais sur les faits qui ouvrent l'histoire, en général, si je les ai choisis, c'est que c'est des faits qui me marquent, dont j'ai envie de parler. Et l'essentiel du travail va être là. Va être de tricoter pour faire que tout ça arrive à un moment ou à un autre à se renouer. Mais c'est là que le fait d'écrire sans plan est pratique. Parce qu'en fait, je suis très libre pendant... En général, mes bouquins font 450 pages. Je me donne 200 pages pour arriver à nouer tout ça. Après, une fois que tout ça s'est noué, excusez le terme, mais c'est le bordel complet. C'est-à-dire que j'ai des fils qui viennent de trois histoires principales qui se mélangent, et je me donne encore 200 pages pour détricoter ce que j'ai tricoté. Et après, comme je sais que les éditeurs n'aiment pas que les bouquins d'espace 450 pages, parce que au-delà, on ne va pas augmenter le prix de vente autant que le prix de fabrication. Donc je m'arrête à la page 400, grosso modo, j'ai un petit temps d'arrêt, et je regarde les personnages qui me restent, et je décide de ceux que je vais emmener à la fin. Et je m'accorde 50 pages pour aller à la fin, quoi. Mais sans savoir toujours qui ira jusqu'au bout. Bon, c'est sûr que j'ai des préférences, c'est sûr que Jeroen Lelger ou Cornelius, je ne vais pas les désinguer au premier volume. Mais autour d'eux, ça m'arrive moi-même d'être surpris de voir que apparaître sous ma plume, par exemple quand j'ai tué Solongo dans la trilogie mongole, j'étais surpris moi-même d'avoir tué le deuxième personnage principal de la série, quoi. Mais je me dis, d'un autre côté, si ça me surprend moi, ça surprendra aussi le lecteur.
Est-ce que vous êtes comme... J'ai eu la même discussion avec un auteur qui s'appelle Pierre Bordage, ouais, qui me disait, j'adore aller me coucher en laissant mes personnages dans une situation inextricable. Vraiment, c'est le merdier. Et le lendemain matin, j'ai la solution. Est-ce qu'il y a une part... Vous laissez travailler un peu votre inconscient.
Pour vous donner une idée dans ce sens-là, j'ai sur un bouquin qui s'appelle Le Premier Fils, qui était une sorte d'enquête, un peu d'espionnage qui se déroulait dans tous les pays du monde. Moi, j'écris pas longtemps, moins de 3 heures par jour, mais quand ça vient bien. Donc, en général, je fais une dizaine de pages par jour, ce qui est beaucoup déjà. Et puis, ce jour-là, j'écris 20 pages. Et je me dis, 20 pages, elles peuvent pas être bonnes, quoi. C'est trop en une seule journée. Et donc, je relis consciencieusement mes pages et je trouve que ça fonctionne. Il y a des trucs à corriger, mais pas énormes. Et la surprise, elle vient à la fin. Et je vous jure que c'est vrai, je me dis, ouais, mais qu'est-ce qu'ils foutent au Liban ? Mes personnages sont arrivés au Liban. Je serais incapable de vous expliquer pourquoi, comment, mais quand je relis, c'est cohérent. Et plutôt que si j'avais un plan, ça c'est hors plan, donc normalement il y a des très bons copains à moi, de très bons auteurs, qui vont couper ça, le foutre à la poubelle ou le garder pour un prochain bouquin. Moi je pars du principe que si c'est sorti, c'est que ça devait sortir, et si c'est écrit d'une façon convenable, que je peux retravailler derrière, je le garde. Et donc, oui, je vais me coucher en me disant, ils sont au Liban. Et le lendemain, je sais qu'il va falloir que je reparte du Liban. En continuant leur histoire à partir du Liban. Donc c'est un peu la même chose.
Ouais, donc ça fait sens quand même à la fin. On a une masterclass hein, ce soir, donc j'en profite un petit peu pour revenir un petit peu au roman, parce que du coup, à partir de toutes ces idées-là, il y a un personnage, il faut qu'il l'infuse et qu'il participe à toutes ces intrigues. Vous avez tiré des fils, enfin vous avez posé des premières scènes, puis après, comment est-ce que vous mettez Cornelius ? Parce qu'il faut qu'il fasse sens, lui.
Alors,
aussi
l'astuce, c'est de mettre sur chaque événement des personnages secondaires, parce qu'il ne peut pas être sur toutes les scènes de crime, mais des personnages secondaires qui ont un passé avec Cornelius. Ce qui fait qu'à un moment ou à un autre, l'un ou l'autre va s'appeler, ou vont se croiser, ou vont se rencontrer. Ce ne sont pas forcément des rapports, des bons rapports hein, avec Cornelius. Il y a notamment, on ne peut même pas dire si c'est son ex-petite amie, ou sa petite amie, ou sa future ex-nouvelle petite amie. Donc ça peut être des rapports conflictuels. Mais ce qui est important, c'est que, en fait, j'écris en posant des jalons. Je mets des jalons, je ne sais pas à quoi ça va me servir, mais si ça me sert, ça fonctionne bien. Un exemple avec Jeroen Lelger, il y a dans un chapitre, il y a un gamin qui s'appelle Gontulga, qui est un personnage incontournable de la trilogie mongole. Il n'a aucune raison d'exister. Aucune. J'arrive à la fin d'un chapitre, Et Oyun, qui est une jeune flic androgyne de 30 ans, qui surveille l'entrée d'un bâtiment, gare sa voiture au pied d'un immeuble. Et voilà. Et comme dans mes livres, j'aime bien parler du pays, je me dis, bah, puisqu'elle est là à surveiller l'entrée d'un immeuble, je vais raconter comment les bandes de gamins s'approprient les cages d'escalier pour en faire des refuges quand l'hiver descend à moins 40, etc. Et donc, je mets des gamins dans cette cage d'escalier. Et puis, à un moment, je me dis, mais le problème, c'est que deux malfrats ont embarqué la fille des Roulelger dans les étages. Il va bien falloir qu'ils redescendent. Et donc, Oyun a besoin que, enfin, moi, j'ai besoin que la cage d'escalier soit vide pour qu'ils redescendent et qu'ils puissent avoir une action. Mais comme j'ai parlé de ces gamins, je ne veux pas couper ce passage-là. Donc je fais sortir Oyun de la voiture, elle va dans le hall, et je lui fais engager un dialogue avec les gamins pour les faire déguerpir. Donc elle va essayer de sortir un petit billet pour leur dire, bien, allez vous payer quelques biscuits de lait aigre. Mais pour se faire ça, il faut qu'elle donne le billet à un gamin en particulier. Donc je mets deux répliques à un gamin, un peu plus impertinentes que les autres, et d'un seul coup il existe. Et donc, je lui donne un nom, je ne suis pas allé chercher bien loin, Gantulga, c'est le nom du filleul que ma fille parraine en Mongolie depuis 20 ans. Donc hop, il s'appelle Gantulga, et d'un seul coup, il existe. Et pour vous expliquer mieux ma technique des jalons, donc ils existent, le Gantulga prend le billet, il emmène ses copains, il dégage, le hall est vide, Oyun revient dans sa voiture, et là, j'aurais pu reterminer une deuxième fois le chapitre, mais je dis qu'au-dessus d'elle, dans l'immeuble derrière, au deuxième ou au troisième étage, je ne me souviens plus très bien, il y a un rideau qui bouge. Et à ce moment-là, je ne sais absolument pas à quoi ça va me servir. Mais je me dis, pourquoi pas mettre les jalons ici. Et en fait, 200 pages plus loin, ça me sert. 200 pages plus loin, il y a un malfrat, un très méchant, et j'ai besoin qu'il sache que Oyun est flic. Et je me dis, ah, c'était lui qui était dans l'appart. Et donc, les livres sont pleins de jalons comme ça, que je pose au fur et à mesure. Je m'en sers ou je ne m'en sers pas. Si je ne m'en sers pas, quand je relis, si ça gêne la lecture, je l'enlève. Si ça ne gêne pas la lecture, je laisse. Donc voilà, les liens se font par jalons. J'en mets plein, autant que possible. Et puis, quand ça fonctionne, ça fonctionne.
Alors, dans cette spontanéité et cette technique, qu'est-ce qui nous garantit que c'est la dernière enquête de Cornelius ?
Parce que je n'écris que des trilogies.
Donc on est sûr, pas une deuxième ou...
Pour tout vous dire, la suite de ce livre chez Flammarion... je l'ai déjà commencé, il est à 250 pages. Ben, je ne dis pas trop fort parce que mon éditeur est là et qu'il va me demander des comptes. Mais et c'est le début d'une trilogie coréenne.
D'accord.
Donc ça sera coréen.
250 pages, vous avez tiré les premières scènes et vous ne savez pas encore.
250 pages, je suis, pour reprendre le terme un peu impoli tout à l'heure, dans plein bordel.
Voilà, on a eu un petit peu la recette de Yann Manouk. On tire un petit peu à la fin de cet entretien. Est-ce que vous avez des questions ? C'est le moment de les poser. Oui, j'en ai une devant. Alors attendez, on va vous apporter un micro. Hop, oui, juste devant.
Bonjour, je voulais vous demander, c'est très anecdotique. Hein. Il y a une raison au rituel de prendre la dernière phrase pour faire la première phrase.
Alors, ça vient de deux choses. J'ai, dans une autre vie, édité beaucoup de trucs pour la jeunesse. J'ai décérébré notre belle jeunesse, puisque j'ai édité depuis 1977, en kiosque, en magazine, avec un gadget, tout ce qui est tiré des dessins animés de la télé. Donc, j'ai été l'éditeur de Goldorak, Candy Candy, Captain Flamme Albator, Strange, tout. Et à ce titre-là, j'ai édité aussi des bouquins... Des magazines en kiosque relatifs aux séries télé. Notamment, on a fait le magazine de X-Files. Et en faisant X-Files, j'ai rencontré plusieurs fois le metteur en scène, Carter, et il m'a expliqué une chose qui me semble tellement évidente, que j'ai trouvé tellement intelligente. Il m'a dit, quand on reconstitue un décor pour faire une scène, on reconstitue tout. On reconstitue une rue, on donne un nom à la rue, on donne un nom à chaque magasin de la rue, on donne un numéro d'immatriculation à chaque voiture. Et il m'a dit, quitte à reconstituer les choses-là, pourquoi leur pas donner un sens ? Et dans X-Files, dans chaque épisode, les noms avaient un sens. Soit on avait l'immatriculation de toutes les voitures des grands films américains, la voiture de Bullitt, la voiture de Scarface. Si le thème général, c'était un problème nucléaire, les noms des magasins allaient avoir des noms de scientifiques de la recherche nucléaire. Je me souviens plus de la date de naissance de la femme de Carter, mais toutes les heures affichées dans X-Files étaient les mêmes. Bon, moi, je suis né le 13 août, donc les heures, c'est soit le 13h08, soit 8h13. Et j'ai trouvé ça tellement intelligent. quitte à refaire quelque chose, que je m'en inspire beaucoup dans ce que j'écris. À l'écrit, on ne peut pas faire la même chose. Mais ce dont vous me parlez, j'en ai eu l'idée en regardant une série qui s'appelle NCIS. Donc les séries américaines sont découpées en 4 fois 13 minutes pour qu'il y ait un passage de pub. Et donc en France, on n'a pas autant de pubs, donc on a un fondu au noir et on recommence avec les... Et chaque 13 minutes de NCIS commence avec la photo noir et blanc fixe de la dernière image des 13 minutes. Et je me dis, je vais faire la même chose. Je prends la dernière phrase du chapitre. Et j'aime bien me donner des contraintes littéraires quand j'écris. Mais c'est pas inutile. Parce que finalement, ça va me forcer à soigner ma dernière phrase de chaque chapitre. Ça ne veut pas dire en faire une phrase philosophique intelligente. Ça veut dire quelle est la phrase qui, au début, en tant que titre de chapitre, va faire pour le lecteur qu'en lisant le début du chapitre, il se dise « Mais comment il va partir de là pour arriver là ?» Et c'est juste... ça fait partie de toutes les contraintes que je me donne quand j'écris.
On a une question sur Internet, Jessica.
Oui, bonjour. Nous avons la lectrice Kriane Solaire, donc une lectrice qui ne vous connaît pas encore, mais qui souhaite vous connaître, et se demande tout de même si vous avez déjà écrit avec un autre auteur ou une autre autrice. Si ce n'est pas encore le cas, est-ce que vous aimeriez bien écrire un roman avec un autre auteur ou une autre autrice? Et si oui, avec qui?
Alors, c'est encore une fois, ça fait partie de ce que j'aime faire. J'aime écrire. J'aime tout ce qui est la contrainte d'écriture. Et je viens de terminer, il y a 3-4 jours à peine, mon troisième roman à quatre mains, avec un auteur lyonnais d'ailleurs, qui s'appelle Gérard Coquet. Et on signe ensemble sous le pseudo de Petchkoman. Et on a écrit un premier livre qui s'appelle Souviens-toi de Sarah, qui est un roman à l'anglaise. Et on a signé un deuxième livre qui s'appelle Outaouais, qui est un roman d'aventure à l'ancienne. Et là, on vient de terminer un livre qui sera un drame provençal, un classique, un peu à la Giono. Et là encore... Chaque bouquin a été écrit d'une façon différente. On n'a pas pris la même technique d'écriture à quatre mains, ce qui est encore une fois ce qui est intéressant. Et ce qui est intéressant pour l'auteur et ce qui est aussi intéressant dans la relation avec l'éditeur, parce que c'est de trouver des éditeurs qui acceptent ce jeu-là, c'est tout ce qui peut conduire à explorer tous les côtés de l'écriture. J'ai fait avec... Mais l'éditeur que j'ai suivi chez Flammarion, qui était avant chez Hugo, j'ai fait une trilogie de polar à l'américaine, Hunter, Crow, Freeman, où la contrainte littéraire était de trouver un style à l'américaine propre à chaque région. Donc le premier se passe dans les Appalaches, donc on est dans un style hard-boiled, dur à cuire, très rapide, à la Frère Cohen, à la Tarantino. Ceux qui en réchappent vont se réfugier le plus loin possible en Alaska. Et là, on est dans nature writing, parce que... ces types qui sont des brutes vont tomber dans un environnement qui est tellement plus brutal qu'eux que psychologiquement, leur caractère va se modifier. C'est-à-dire quand on a beau être presque un tueur, quand on tombe dans le pays de tous les dangers que peut être l'Alaska, on ne devient pas un enfant de cœur, mais on se calme un peu. Et puis celui qui survit encore à cet exercice de style en Alaska se réfugie en Louisiane, et là en Louisiane on est dans le bonheur absolu de l'écriture sudiste, c'est-à-dire des phrases longues, suradjectivées, pleines de couleurs, pleines de senteurs, etc. Et aussi, pour rester dans la logique sudiste, une histoire qui ne se termine pas vraiment. C'est une histoire qui pourrit comme dans les bayous, qui se délite, qui se dilue dans l'écriture. Et encore une fois, c'est ça. S'il n'y a pas le plaisir d'écrire, moi je ne veux pas. Alors je suis aidé là-dedans parce que je suis tellement vieux que il n'y a pas de risque que je renouvelle 150 fois le même bouquin. Mais si c'est pour écrire le même bouquin, ça ne m'intéresse pas. Quoi. Je veux à chaque fois que dans l'écriture, il y ait un défi et que j'essaye de l'enlever.
Oui, il y a une dimension ludique.
Oui, absolument, absolument.
On a envie de s'amuser. Est-ce qu'on a encore une dernière question, peut-être? Oui, allez-y. Au milieu. Attendez, le micro arrive. Comme ça, on pourra vous entendre aussi sur nos réseaux sociaux.
Bonjour, j'aurais voulu savoir si vous laissiez votre environnement influencer vos bouquins. C'est-à-dire, est-ce que les gens qui sont autour de vous, vous les laissez relire, vous donnez un avis, ou est-ce qu'au contraire, vous travaillez en solitaire et vous ne faites confiance qu'à votre propre avis?
Alors, j'écris... d'abord, j'écris pas au calme. J'écris dans des ambiances animées. quand je bossais, je travaillais, j'écrivais pendant mon travail. Moi, j'étais mon propre patron. Hein. Mais je faisais des maquettes de catalogues de voyage. Donc, j'avais les maquettes sur la moitié de l'écran et toujours un manuscrit ouvert sur l'autre. J'écris pas au calme. Je n'ai aucun problème à parler de mes histoires. Je raconte mes histoires à tout le monde. Je pars du principe que si on me la pique, c'est que je ne l'ai pas écrite assez vite et qu'elle était dans l'air du temps et que tant mieux si quelqu'un en fait quelque chose. Je fais lire ce que j'ai écrit, pas de façon régulière, à 4 ou 5 personnes autour de moi. Je ne suis pas sûr de tenir compte de leur avis. Et l'environnement ne me modifie pas. Je vis vraiment... Bon, j'écris depuis 10 ans, mais j'écris... Enfin, je publie depuis 10 ans, mais j'écris depuis toujours. Et je suis habitué à vivre avec toutes mes histoires en tête, dans ma tête. Je pense que c'est plutôt moi qui interfère sur mon environnement, parce que je peux être un peu tête en l'air avec les histoires que j'ai dans la tête et oublier certaines choses. Mais non, je me laisse assez peu manipuler. Par contre, si on parle de l'environnement des pays que j'ai découverts, oui, 100%. Mais pas mon quotidien.
Oui, il y avait une dernière question. Quand j'ai une dernière question, peut-être une toute dernière ici. Attendez, il y a le micro. Ah bah voilà. Merci.
Oui, j'allais vous demander quelle était votre prochaine destination, mais vous avez déjà répondu, c'est la Corée. Pourquoi la Corée ?
Alors, je suis allé en Corée il y a pas très longtemps, il y a quelques mois, à reculons. J'étais pas du tout attiré par la Corée. Ma femme est red dingue tout ce qui est drama coréen, tout ce qui est K-pop, etc. Donc pour lui faire plaisir, on y est allé en voyage. Je suis encore une fois vraiment allé à reculons. Et finalement, j'ai découvert un pays curieux qui n'est pas spectaculaire. C'est-à-dire qu'on parlait de l'été indien coréen, mais quand on a vu l'été indien en Alaska ou au Québec ou au Canada, c'est pas spectaculaire. C'est pas les plus beaux temples asiatiques que j'ai vus. C'est pas les plus belles architectures. Mais j'en suis revenu avec ce côté curieux. C'est pas spectaculaire, mais c'est intéressant. Dans le détail, c'est intéressant. Je me demandais, parce que en Islande, il y avait des volontaires coréens, et on se moquait d'eux dans leur façon de prendre de se laver le matin. On était logés dans une école, donc il y avait des dortoirs. Et je voyais ces mecs s'éclabousser de flotte, mais comme ce n'était pas possible. Et je l'ai compris 40 ans ou 50 ans plus tard, en allant en Corée. Il y a une vénération de l'eau en Corée. Pas de l'eau qui tombe, de l'eau qui monte de la terre. C'est considéré comme un élément absolument pur, d'autant plus pur que ça vient des montagnes qui, elles, sont des montagnes sacrées. Et il y a un vrai plaisir pour les Coréens de s'éclabousser à plein bras de flotte que j'avais pris comme un défaut en 73 quand j'étais en Islande et que je redécouvre comme une qualité, enfin un détail culturel qui est fascinant. Et en fait, quand on regarde bien cette société, elle est fascinante par ces côtés-là. Par exemple, si vous regardez un drama coréen, un truc qui est incroyable, c'est que quand il y a des embrouilles dans un bureau, entre supérieurs hiérarchiques et collaborateurs, les supérieurs ont le droit de filer des grands coups de savate dans les tibias des gens. Regardez n'importe quelle série coréenne, il y a toujours un moment où les gars ne sont pas d'accord au bureau et l'autre lui balance un grand coup de tibia. Et en dehors du côté anecdotique, ça démontre encore une hiérarchie de violence et la société coréenne au niveau du business, de la finance, etc., est d'une violence extrême. Et donc j'ai trouvé ce pays intéressant et je suis rentré et j'ai commencé à écrire, là, il y a 2-3 mois après, un polar coréen. Surtout que, là, par exemple, on a tous une idée de la mafia. On voit bien ce que c'est qu'une mafia italienne ou une mafia américaine. Ça prend une sulfateuse et ça sulfate tout le monde. La mafia coréenne existe. Elle a été, pendant la période d'occupation japonaise, elle a été soumise au Yakuza. Et là, il s'est passé deux choses. Les Yakuza ont donc permis à la pègre coréenne de s'organiser en mafia, mais sous leur contrôle. Mais on avait une mafia coréenne qui pouvait aller chercher des richesses ou de l'argent à piquer qu'à des Japonais, puisque les Japonais occupaient tout. Donc la mafia coréenne est devenue une sorte de forme militaire armée qui s'en prenait aux occupants. Et elle est devenue, légèrement dans l'esprit de tout le monde, une force de libération. Et il y aura une grande bataille de libération de la Corée contre le Japon, où le commandant suprême sera le plus grand des dragons, c'est-à-dire le plus grand des chefs mafieux, et son fils naturel deviendra à la fois le dragon des dragons, c'est-à-dire le parrain des parrains, et en même temps député pendant 10 ans. Et jusque dans les années 30-40, il y avait cette ambiguïté qui venait de la mafia. Et comme le Japon, qui est une puissance occupante, ne pouvait pas autoriser le port d'armes, cette mafia elle s'est développée sans armes. Et effectivement, quand on regarde moi, quand je regardais les dramas coréens, que je voyais des scènes de bataille, de baston entre clans mafieux, on voyait 40 types d'un côté, 40 types de l'autre qui se tapaient dessus avec des poings américains, les poings ou à la limite une barre de fer. Et je me disais, mais ils n'ont qu'à prendre une sulfateuse comme font les Américains. Mais non, ils n'ont pas d'armes. En Corée, la détention d'une arme est plus punie que l'utilisation qu'on peut en faire. Et les premières armes par destination apparaissent dans les années 50. La première fois que des Coréens mafieux vont se battre et qui prennent une barre de fer, c'est presque une révolution culturelle. C'est au-delà du code d'honneur. Et donc, d'un seul coup, quand je comprends ça, en étant allé là-bas, en ayant écouté des gens, lu, etc., je dis, voilà, ça, c'est un truc intéressant pour un polar. Parce que ça va au-delà des clichés de la mafia. Et c'est toujours rattaché à une notion culturelle qui nous échappe. En la circonstance, c'est cette notion d'honneur, même dans le pire comportement. Par exemple, jusque dans les années 30, les combats mafieux se faisaient donc 40 contre 40 dans une 40 parce que le chiffre 4 est sacré pour la mafia. Donc 40 contre 40 dans un terrain neutre, et on arrêtait le combat au premier blessé grave. C'est-à-dire que c'était pas des combats à mort. Il y avait un blessé grave, et bien le côté qui avait un blessé grave avait perdu. Et donc, ça c'est intéressant, c'est pour ça que je dis que je suis revenu avec cette idée que c'est pas spectaculaire mais c'est intéressant, et plus j'écris, là je suis à 250 pages, c'est vraiment j'ai envie d'en dire encore une tonne de choses dedans, parce que dans tous les détails, dans la façon de cuisiner, de se comporter, les rapports hommes-femmes, les Coréens restent chez leurs parents jusqu'à 30, 32, 33 ans, ils n'ont aucune intimité, c'est dans un appartement tout petit, on met et on enlève le matelas de sol. Et donc il y a des love hotels. Il y a des love hotels qu'on paye à l'heure, où on peut aller se retrouver pour faire l'amour, etc. Mais la société est tellement pas liberticide, mais est tellement opprimante pour la jeunesse, que finalement la moitié de la fréquentation des love hotels sont des gens qui ont juste besoin d'être 2 ou 3 heures peinards tout seuls en dehors de tout. Et donc les love hotels sont à la fois des hôtels de passe, mais standardisés, et en même temps, des sortes de refuges pour une jeunesse qui veut juste être peinard 2 heures.
Une toute dernière question. Hop, allez-y, le micro est là.
Bonjour. Vous avez commencé par le roman policier ou par les romans, les autres romans ?
Alors, j'ai commencé par un défi avec ma plus jeune fille. Je ne raconte pas toute l'histoire, mais à un moment, ma plus jeune fille m'a mis au défi de terminer quelque chose, parce que je ne terminais jamais rien. J'écrivais des bouts de trucs. Elle est partie s'installer en Argentine, et je lui ai dit, tu veux que je t'envoie ce que j'écris tous les jours, par petits bouts, etc. Elle pique une colère, elle me dit, je connais la fin d'aucune histoire, je connais le dessin d'aucun personnage, donc je ne dis plus rien de toi tant que tu n'as pas terminé quelque chose. Et comme un père peut le faire avec sa plus jeune fille, j'en ai rajouté, je dis, puisque c'est comme ça, je vais écrire 2 livres par an, dans un genre différent à chaque fois, avec un pseudo différent à chaque fois. Et on a fait la liste, et la liste, c'est essai, roman jeunesse, roman littéraire, polar, saga historique et roman de société. Et donc j'ai commencé comme ça. J'ai pas décidé de l'ordre des choses. Après, c'est vrai que le polar, en 4e position, c'est Yarou Lelger. Il a déclenché quelque chose que j'arrive même pas à maîtriser. Et donc après, j'ai écrit 5 ou 6 autres polars chez Albin. J'en ai écrit 9 chez Hugo. Mais après, je suis revenu au programme. C'est-à-dire qu'après le 4e, donc j'ai écrit les 2 livres sur l'Arménie, qui sont une saga historique et familiale, et le prochain qui est d'apparaître en août, qui est un roman de société, qui est un roman d'apprentissage, très autobiographique, qui parle de la dérive de 3 gamins de 18 ans, au début des années 60, dans une banlieue parisienne, l'année étant 62, à la fois parce que Claude François a chanté cette année-là, en 62, donc c'est l'essor du rock, de la pop, etc., mais aussi parce que 62 était une année terrible, attentat contre De Gaulle au Petit Clamart, c'est à moins d'un kilomètre de chez moi, la crise des missiles à Cuba, cette horrible guerre du Katanga, et aussi les événements de Charonne, 9 morts dans une manifestation antiraciste, et surtout ce qu'on a oublié, 62, c'est pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, 10 attentats par jour à Paris, jusqu'à 17 pendant les fameuses nuits bleues, l'attentat de l'OS avec des bombes qui étaient dans la rue pour les civils. Donc voilà, c'est l'ambiguïté de cette année-là que je parcours à travers la dérive tragique d'ailleurs de 3 gamins qui n'avaient rien demandé, qui étaient dans des années qui étaient à la fois terribles, mais à la fois des années de plein emploi, il n'y avait pas de chômage. On quittait un job le mardi, le mercredi, on avait retrouvé un autre. Mais c'était les prémices d'une sorte d'insatisfaction et d'une sorte de violence internationale qui allait déboucher sur 68. Donc c'est ce que j'appelais, dans la liste, ce que j'appelais un roman de société et ce qu'on appelle en fait un roman d'apprentissage, quoi.
Merci beaucoup, Yann Manouk.
Je sais que je suis un peu long.
Non, 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 c'était très bien, c'était très bien. Alors, on va s'arrêter là pour la Web TV Bipolar en direct de la FNAC Bellecour à l'occasion de Quai du Polar. Mais on revient évidemment demain. Il y a tout un joli programme avec des tables rondes, avec de la musique, avec plein de choses. Donc, n'hésitez pas à revenir ou à nous suivre évidemment derrière les réseaux sociaux. Merci à tous et bonne soirée.